Vous êtes sur RTL.
RTL Midi avec Olivier Bois.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce RTL Midi, dimanche 11 juillet, jour de finale ce soir à Londres, à Wembley, 21h, finale de l'Euro de football évidemment. 60 000 spectateurs dans le stade, l'Angleterre portée par ses fans face à l'Italie qui a retrouvé son efficacité, on verra qui tient la corde, on verra que l'ambiance monte, en tout cas à Londres, on sera avec Philippe Sanfourche, l'envoyé spécial d'RTL dans un instant. Un autre Britannique à la une ce jour, le milliardaire Richard Branson s'envole lui pour l'espace dans moins de 3 heures, le rêve d'une vie pour un homme qui a toujours détonné dans le monde des grands patrons. On verra comment il a construit sa fortune, des Sex Pistols à la conquête de l'espace. Parcours atypique. La situation sanitaire en France, 4 départements sont à nouveau dans le rouge, au-dessus du seuil d'incidence d'alerte. À la veille donc de la prise de parole d'Emmanuel Macron, la reprise épidémique qui pèse un peu en tout cas sur le moral des vacanciers. Le Tour de France, étape pyrénéenne aujourd'hui, du costaud pour les coureurs qui vont monter à 2400 mètres d'altitude, point culminant d'ailleurs de cette édition, au port d'Envalira. La météo, bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Olivier, bonjour.
Alors,
à tous.
Alors, ça s'améliore?
Oui, on peut le dire clairement pour la moitié nord et il faut en profiter parce que ça va se dégrader à nouveau dès demain. En attendant, c'est gris hein, au nord de la Loire mais ça ne va pas durer, alors on n'aura pas un grand soleil non plus comme c'est le cas sur la moitié sud, mais un temps sec et de larges éclaircies des Pays de la Loire aux frontières du nord, on en a eu déjà quelques-unes du côté de Paris. Ça restera un petit peu plus couvert près de la Manche et toujours pluvieux sur la Bretagne, la pointe du Cotentin, cette puis c'est déjà la perturbation dont je vous parlais un instant et qui va arriver par l'ouest dans la nuit, traverser demain la France d'ouest en est avec des pluies parfois soutenues, des orages aussi de l'Aquitaine vers la Bourgogne qui se décaleront ensuite vers l'est. Donc on profite bien de cette journée d'accalmie avec des températures qui grimpent un petit peu cet après-midi puisqu'on aura 23 degrés à Lille, 24 à Paris, 25 à Strasbourg, 27 à Clermont-Ferrand, 28 à Biarritz, 30 pour Agen et Toulon, 31 à Montauban, jusqu'à 33 degrés encore à Nîmes pour la maximale.
Merci beaucoup Céline Dacosta et puis à 12h45, notre rendez-vous littéraire de l'été sur RTL, Les Chemins d'écrivains. Bonjour Bernard Lehu.
Bonjour.
Vous êtes avec qui Bernard ce midi et où nous emmenez-vous?
Eh bien dans la Drôme provençale avec Hervé Le Tellier, l'auteur de L'Anomalie, le phénoménal prix Goncourt 2020.
À tout à l'heure Bernard, 12h45. Voilà pour le programme de ce RTL Midi. Merci d'être avec nous sur RTL.
RTL Midi, Olivier Bois.
Mais avant de partir à Londres, où l'ambiance monte, donc à quelques heures de la finale de l'Euro, on va faire un point très rapide sur vos conditions de circulation. Sarah Loubacouche, on vous retrouve à nouveau aujourd'hui. Une journée qui n'a évidemment rien à voir avec celle d'hier.
Oui, rien à voir Olivier. La journée elle est classée verte. On est loin du pic d'hier midi avec 1100 km de bouchons cumulés sur tout le territoire. À l'heure actuelle, c'est à peine 220 km en tout. Quelques difficultés dans l'ouest notamment. Si vous êtes sur la 71, vous partez d'Orléans en direction de Clermont-Ferrand, de Montpellier, de Toulouse. Un premier bouchon va vous ralentir à Vierzon, à proximité de l'échangeur pour récupérer la 20. Quelques difficultés aussi dans la vallée du Rhône évidemment, mais rien de très embêtant. Vous mettez 1h50 pour aller du sud de Lyon à Orange. C'est 10 minutes supplémentaires seulement par rapport à d'habitude. Pas trop de ralentissement. Toujours quelques coups de frein. Donc, on vous souhaite une bonne route à tous.
Merci beaucoup. Merci Sarah Loubacouche. Et on vous retrouve tout à l'heure à 15h.
L'Euro sur RTL.
Allez, comme promis, direction Londres maintenant, l'événement sport ce soir qui sera à vivre sur RTL et sur M6, la finale de l'Euro de football, Italie-Angleterre à 21h dans le stade de Wembley. Bonjour Philippe Sanfourche.
Bonjour.
On vous retrouve à Londres, c'est vous qui allez nous faire vivre la finale ce soir, finale à domicile pour les Anglais. Quelle est l'ambiance d'abord à Londres, Philippe?
Ah bah c'est une interminable journée d'attente hein, qui s'étire. Tous les drapeaux aux couleurs des Three Lions sont accrochés aux fenêtres. Depuis deux jours maintenant, la BBC diffuse en boucle une version colorisée de la finale de la Coupe du Monde 66, le seul et unique trophée de la sélection anglaise. En fait, il y a comme un petit parfum de 12 juillet 98 en France, avec tout un pays à l'unisson pour vibrer. Ils seront 55 000 Anglais ce soir sur les 67 000 attendus à Wembley. Des places qui s'arrachent une fortune au marché noir, parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros pour un ticket, un seul ce soir en tribune.
Alors c'est vrai que l'histoire paraît trop belle pour que le titre échappe aux Anglais. Ceci dit, attention aux Italiens qui visiblement ont retrouvé un peu des fondamentaux qui ont fait leur légende et leur palmarès. Ils ont été très efficaces face à l'Espagne en demi-finale, Philippe.
Oui, c'est aussi une renaissance hein, pour les Italiens, tellement vexés d'avoir raté la dernière Coupe du Monde pour la première fois de leur histoire en 2018. Ils ont reconstruit depuis par le jeu avec des garçons très techniques comme le Parisien Marco Verratti ou le Milanais Barella, tout en conservant, vous le disiez, les valeurs historiques, tactiques de l'Italie, la science de la défense. Ils restent sur une série record de 33 matchs sans défaite et ils rêvent évidemment de doucher ce soir la ferveur britannique, un peu comme les Portugais avaient su le faire en 2016 face à nos Bleus au Stade de France.
Ouais, rappelez-nous des mauvais souvenirs, Philippe, vous avez raison. Merci beaucoup, on vous retrouve évidemment ce soir pour le match. Ce sera un RTL Foot spécial sur RTL de 20h à minuit avec Eric Silvestro, avec toute l'équipe, avec Philippe au stade. Et la finale est à suivre également sur M6. Mais pourquoi est-ce qu'on écoute les Sex Pistols à 12h36 sur RTL ? Eh bien parce qu'il y a un autre Anglais aujourd'hui à la une de l'actualité. Il s'appelle Richard Branson, producteur historique donc des Sex Pistols, devenu milliardaire avec sa société Virgin et qui va s'envoler tout à l'heure à 15h pour l'espace depuis le Nouveau-Mexique à bord de son vaisseau Unity. C'est l'aboutissement de 17 ans de travail pour Richard Branson. Et donc des Sex Pistols à la conquête de l'espace. C'est un homme qui a toujours assumé d'avoir une vie et un style atypique, Marie Billon.
Sa course à la réussite, Richard Branson l'a mené hors des sentiers battus dès le début. Né en 1950 dans le sud de l'Angleterre, il était un enfant dyslexique et n'a jamais brillé en classe. À 16 ans, il décide de quitter le pensionnat. Le directeur de son école lui aurait dit qu'il finirait soit en prison, soit millionnaire. Avec le soutien de ses parents, il ne se laisse pas démoraliser, puis lance un magazine dédié aux étudiants. Nous sommes en 1966. Quelques années plus tard, il lance une autre compagnie de vente de disques, cette fois pour tenter de sauver la première. Il la nomme Virgin, car il s'estime vierge en business. La marque et sa carrière d'entrepreneur sont lancées, mais ce n'est pas toujours facile. Lorsqu'il vend Virgin Records en 1992, on dit qu'il n'a pas pu retenir ses larmes. Il est fait chevalier par la reine en 2000 pour ses services à l'entrepreneuriat. Il est aussi ordonné prêtre d'une église américaine en 2007 pour pouvoir célébrer un mariage dans les airs afin de promouvoir sa compagnie aérienne. Lui-même s'est marié à deux reprises, une première fois de 1972 à 79, et puis il épouse John Templeman en 1989. Ils auront trois enfants. Leur première fille, née prématurée, ne vit que quelques jours. En janvier 2021, il perd sa mère qui décède après avoir contracté le coronavirus.
Merci beaucoup Marie Billon, correspondante RTL à Londres. Décollage donc de 15h tout à l'heure pour Richard Branson qui sera redescendu. Donc normalement pour la finale de l'Euro de son équipe. Concrètement, le vaisseau Unity sera tracté d'abord par un avion gros porteur jusqu'à 15 000 mètres d'altitude et ensuite le vaisseau grimpera en flèche avec ses propres moteurs jusqu'à 90 km. Le milliardaire apercevra la courbure de la Terre et puis il passera quelques minutes en apesanteur avant la chute libre. Le vaisseau déploiera enfin ses ailes pour atterrir comme un avion au point de départ au Nouveau-Mexique. Allez, une pause sur RTL et retour malheureusement à une actualité un peu plus terre-à-terre. L'épidémie de Covid qui progresse à nouveau de manière spectaculaire en France. A tout de suite sur RTL.
RTL Midi. RTL Midi avec Olivier Bois.
Midi et presque 40 minutes sur RTL. Je vous le disais, l'épidémie de Covid progresse donc en France. Quatre départements dépassent désormais le seuil des 50 cas pour 100 000 habitants. C'est le seuil d'alerte. Il s'agit de Paris, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales et des Alpes-Maritimes. Le variant Delta qui est très présent d'ailleurs dans les zones touristiques en ce moment. Ce qui alourdit un peu le climat malgré le soleil dans les Bouches-du-Rhône par exemple. Pour cette touriste belge, Mylène, arrivée hier dans un camping de Martigues.
D'habitude, on part en étranger, en effet, et on n'a pas voulu se compliquer la tâche. On avait déjà abandonné, on ne s'est même pas posé de questions. J'étais sereine jusqu'à il y a 15 jours, ou une semaine, on va dire. Et finalement, vu les dernières annonces, etc., je me suis posé la question et je me suis dit que j'étais sûrement très chanceuse de pouvoir partir au mois de juillet. Et à cette période-là, parce qu'on ne sait pas ce qui va devenir dans les semaines à venir, on va dire.
Mylène, touriste belge, donc interrogée par Samia Belbachir à Martigues. Emmanuel Macron prendra donc la parole demain à 20h. Il y aura avant cela un conseil de défense. Le journal du dimanche nous apprenait ce matin que le gouvernement allait demander par ailleurs à tous les préfets de mettre en place des dispositifs dédiés pour vacciner plus massivement les fonctionnaires, mais sans parler à ce stade d'obligation pour eux. Alors en attendant de savoir si le président va nous imposer des restrictions supplémentaires, nous expérimentons tous un début d'été avec des règles plus strictes quand on veut aller voir par exemple un spectacle dans un festival avec le fameux pass sanitaire. Exemple concret, hier soir, l'Essentiel Festival s'est terminé à Toulouse. Il y avait eu 5000 personnes par soir maximum pendant 3 jours. Et hier, il y avait notamment au programme Patrick Bruel ou encore Christophe Maé. Reportage de Benjamin Pelsi.
et les contrôles sont stricts sur la rampe qui mène au parking.
Bonsoir, bienvenue. Alors, je vais contrôler votre passe, s'il vous plaît. Alors, il va falloir une pièce d'identité, oui. Là, je vérifie en fait que madame a bien été vaccinée de sa deuxième injection, donc ça, c'est bon. Je vérifie que le papier qu'elle me donne correspond bien avec ma pièce d'identité. Tout est valide, donc je vais lui mettre une petite pastille pour donner l'accès à son véhicule. Et voici, passez une bonne soirée, au revoir. Au revoir.
Dans les voitures, les festivaliers attendent sagement leur tour. Cette sécurité renforcée est vue d'un bon oeil.
C'est bien parce que ça rassure. C'est quand même plus sécurisant de pouvoir se dire que tout le monde est testé et qu'on est à peu près tranquille.
À la tête de l'équipe de contrôle, il y a Audrey.
Alors les contrôles se passent très très bien parce qu'en fait les gens sont très sympathiques. Il n'y a pas de souci, on n'a pas eu d'accrochage ou de personnes qui étaient incompréhensives.
Elle vient tout de même de tomber sur l'une des rares qui n'est pas en règle. Changement de fil pour elle, direction la tente de test de la sécurité civile.
Ça dure que quelques minutes, hein, vous inquiétez pas.
Ouais, le test, c'est voilà. Je sais ce que c'est. Ouais. Je trouve ça un peu lourd, honnêtement. Très très lourd.
Le référent Covid du festival, Stéphane Briouest, peut déjà tirer un bilan de ces 3 jours de fête et il est positif.
Jeudi soir, où on a accueilli 5000 personnes, on n'a eu que 40 personnes qui ont été à l'accueil ARS pour passer le test. Le test, là aussi, était négatif et ont pu revenir. On a accueilli 100% des festivaliers safe.
Son inquiétude de voir passer des faux certificats de test ou de vaccination s'est envolée dès le premier soir.
Reportage à Toulouse de Benjamin Pelsi. Les Espagnols, eux, suffoquent à nouveau aujourd'hui. La vague de chaleur s'intensifie encore. On pourrait atteindre d'ailleurs le record de 47 degrés aujourd'hui dans le sud du pays à cause donc de ce dôme de chaleur qui s'est installé en provenance d'Afrique du Nord. Il a fait 30 degrés la nuit dernière en Espagne. Le pape François, en convalescence depuis une semaine après une opération du côlon, s'est adressé aujourd'hui à ses fidèles depuis le balcon de l'hôpital où il est donc soigné. 200 personnes s'étaient rassemblées pour le saluer. On va partir sur la route du Tour.
RTL Tour de France 2021.
Et les choses se compliquent à nouveau pour les coureurs aujourd'hui. Voilà les Pyrénées, 15e étape, 191 km aujourd'hui entre Céret et Andorre-la-Vieille. Bonjour Nicolas Georgerot.
Bonjour.
Sur la moto RTL, on va même atteindre le point culminant de ce Tour de France aujourd'hui, Nicolas.
Oui, le toit du Tour, selon l'expression consacrée, passage par le port d'Envalira, 2408 mètres d'altitude lors de la seconde partie de l'étape. Mais il y aura 5 ascensions au total aujourd'hui. Le port d'Envalira, qui est un col assez roulant, ce ne sera pas le col le plus compliqué de ce Tour de France. Et il y a plusieurs enjeux. La lutte pour le classement général, c'est la première étape des Pyrénées. Est-ce que Pogacar sera attaqué? Guillaume Martin aussi, le Français, qui va essayer de conserver sa deuxième place. La lutte pour le maillot à poids, Woods, Quintana notamment. Et puis on va surveiller un petit peu l'échappée du jour. Ça bataille énormément pour l'instant. Il y a le Belge de Ghent après 10 km dans cette étape qui compte vraiment une poignée de secondes, une quinzaine de secondes sur un groupe intercalé. Le peloton est à 20-25 secondes notamment emmené par la formation Jumbo du jeune Danois Vingegaard qui est bien classé au général. Prochain point sur cette route du Tour à 13h30.
Merci beaucoup Nicolas Georgerot. À tout à l'heure. L'actualité sportive, c'est aussi la finale homme de Wimbledon cet après-midi. Novak Djokovic face à l'Italien Matteo Berrettini avec un enjeu énorme pour l'histoire du sport. Novak Djokovic, en cas de victoire, peut rejoindre Rafael Nadal et Roger Federer avec 20 titres du Grand Chelem. On fait une pause sur RTL et dans un instant, c'est le retour de l'un de vos rendez-vous préférés sur notre antenne, l'un de nos rendez-vous estivaux avec les balades littéraires de Bernard Lehu avec nos grands auteurs. Et ce midi, on est avec Hervé Le Tellier dans la Drôme provençale. Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020 avec son roman L'Anomalie. À tout de suite sur RTL.
RTL Midi. Chemin d'écrivain, Bernard Lehu.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle série de rencontres avec vos écrivains préférés, dont les lieux qu'ils aiment et qui les inspirent. Et comment ne pas débuter par l'auteur du succès phénoménal de ces derniers mois, Hervé Le Tellier, le lauréat d'un prix Goncourt historique. Son roman L'Anomalie, récompensé à l'automne dernier par les jurés de chez Drouan, s'est déjà vendu à plus d'un million d'exemplaires. L'engouement se prolonge cet été encore. Hervé Le Tellier nous attend dans la Drôme provençale, où ce Parisien de souche s'est trouvé un autre chez lui.
Alors nous sommes dans ma maison natale d'élection, c'est-à-dire que à un moment donné, quand j'ai cherché une maison de campagne pour travailler et pour travailler avec des amis, j'ai dit aux agents immobiliers, je cherche une maison natale. Et j'ai finalement trouvé ce relais de poste qui se trouve à Montjoux-la-Payette, qui est un petit village près de Dieulefit dans la Drôme, où je suis rentré, j'ai vu en 10 minutes et j'ai dit oui tout de suite, après avoir vu peut-être une trentaine d'autres maisons, c'était celle-là dans laquelle je me sentais bien.
Et est-ce que Hervé Le Tellier écrit ici également, par exemple pour l'anomalie, est-ce qu'une partie du roman a été écrite à La Paillette et dans cette maison en particulier ?
Oui, une partie a été écrite ici, une grande partie a été corrigée ici, parce que le confinement a commencé en mars et c'était vraiment la fin de la correction des épreuves. Et à ce moment-là, j'étais en train de regarder les dernières pages et je pense que pas mal de choses ont été effectivement finalisées complètement dans cette maison.
Alors il y a beaucoup d'objets dans cette grande pièce et notamment là au-dessus de nous, il y en a un qui m'interpelle tout de même.
Alors ce qu'on voit là, c'est un petit monoplan, donc une reproduction, je pense que c'est du laiton avec des roues en métal. Et c'est un petit monoplan qu'on a trouvé dans une brocante et quelqu'un me l'a offert en me disant « Tiens, c'est l'avion de l'anomalie ». Ça ressemble pas du tout, pas du tout à un gros porteur. C'est plutôt un petit truc qui fait penser un peu à Indiana Jones. Hein. Ouais. C'est un petit côté aventure années 30. On le voit bien arriver au Tibet pour aller récupérer une amulette. Il est néanmoins un peu en perdition, comme on peut le voir.
Oui, il pique du nez, pas mal, c'est un peu inquiétant.
Ouais. Bon, voilà, il tient quand même bien avec des fils de fer, mais finalement, peut-être que c'est un objet fétiche et qu'il a porté bonheur, en fait. Allez savoir.
Et où est son double, alors ?
Ah oui, c'est vrai.
Le jardin.
Bon, c'est un petit jardin.
Ah oui, mais magnifique.
Qui représente le maximum dont je puis m'occuper, c'est-à-dire 100 mètres carrés de jardin et 100 mètres carrés de surface occupée par une étendue d'eau, qui est une petite piscine. Et c'est une piscine naturelle. C'était aussi mon idée du luxe, c'était que la filtration se fasse par les plantes. Donc en été, c'est très beau parce que ça a beau être tout petit comme surface, ça donne une impression avec les jacinthes d'eau, avec les nénuphars, ça donne une impression
les iris de aussi,
plus,
oui.
Beaucoup plus grande. Et on voit que, bien qu'on soit dans un village, la montagne est très présente.
C'est-à-dire qu'on c'est ce que j'allais dire. Voilà, il y a le bout de la piscine et juste derrière les montagnes de cette Drôme provençale.
Et maintenant, c'est une forêt dans laquelle il y a des loups. Une chose qui m'est jamais arrivée de ma vie. Ça m'est arrivé il y a quelques mois. C'était la nuit et j'ai croisé un loup.
Et là, au fond de votre jardin
non, pas du tout, au fond du jardin, sur la route, à quelques kilomètres d'ici, j'ai vu un loup. Il y a quand même une surprise, un étonnement et aussi une sorte d'effroi, quoi. Parce que quand même, il y a de l'imaginaire derrière le mot loup. Hein. Et il a beau être gris, un peu décoloré par les phares de la voiture, on se dit quand même c'est un animal sauvage. Et j'ai trouvé que c'était une petite rencontre très inattendue. J'en ai jamais vu de ma vie et peut-être que j'en croiserai jamais plus dans cette situation-là.
On va quitter avec regret cette maison et ce beau jardin pour aller où, Hervé Le Tellier ?
Alors on va aller se promener et donc on va aller dans le massif de la Lance, alors qui est un massif qui, comme le Vercors, a été un massif de tradition de résistance.
Au lieu de la résistance, oui,
voilà,
bien sûr.
Au lieu de la résistance. C'est un maquis qui n'a pas été attaqué, contrairement à celui du Vercors, ce qui fait qu'il est finalement moins connu. Mais la grande différence aussi, peut-être avec le maquis du Vercors, c'est que ce lieu était aussi un lieu de passage et un lieu d'abri pour beaucoup de Juifs pendant la guerre, et que la région de Dieulfi est une région qui a beaucoup participé au sauvetage des Juifs pendant la guerre. Ce qui fait que c'est une région de justes, enfin, selon le terme utilisé, et Kayas Vachem, donc à l'endroit où, en Israël, on célèbre les justes, Dieulfi a sa place. Et tout ce qu'on a autour de nous, c'est... on a des zones de promenade, il y a des GR, des grandes randonnées.
Là, voilà, on remonte un petit chemin entre deux parcelles de lavande, deux champs de lavande.
On a des cigales maintenant. Ce qui est nouveau, parce que théoriquement, la cigale est limitée par ce qu'on voyait avant sur les cartes en papier ou en carton qu'on accrochait dans les salles de classe où on voyait
où était la frontière,
la ligne de la cigale. La ligne de la cigale. La ligne de cigale était beaucoup plus bas, mais maintenant il y a des cigales ici, ce qui prouve que vraiment le climat change à une vitesse étonnante.
Mais je me disais que voilà, ces paysages, tout cet univers, on ne le trouve pas dans vos livres.
Non, je suis quelqu'un d'assez citadin, en fait. Et la plupart de mes livres se déroulent dans des villes. Je suis très peu un écrivain de la campagne. Et j'avoue que je suis pas très inspiré par les grands espaces. Je suis pas John Ford. Donc j'ai une tendance...
Et ça ne pourrait pas évoluer, ça, un jour ou l'autre ?
Ça serait un exercice de style, parce que je pense que... Mais ça me dérangerait pas d'écrire un livre qui serait effectivement dans un univers totalement différent de ce que je serais d'habitude. Mais ça serait, une fois de plus, un univers de fiction. Mais j'aime bien l'idée de m'imposer des choses. Et après tout, puisque le prochain projet, c'est un projet un peu historique, ça ne me dérangerait pas de me projeter dans un univers, par exemple, de forêt gauloise, pas trop défrichée par l'homme, et relativement encore vierge. C'est un jeu typiquement d'écrivain, c'est-à-dire on va faire le contraire de ce qu'on aime faire d'habitude, et puis on va voir que ça marche.
Et à quoi êtes-vous le plus sensible ici ?
Je crois que c'est la montagne. Je vois bien que où que j'habite, c'est-à-dire que ce soit à Paris ou que ce soit ici, je cherche des hauteurs. À Paris, j'habite à Montmartre et vraiment, ce qui m'intéresse, c'est les trouées entre les immeubles, gravir des escaliers, avoir une perspective sur la ville. Enfin, c'est ce côté vraiment vallonné, même parfois abrupt, qu'on trouve ici et qu'on va trouver parfois à Paris.
Hervé Le Tellier, est-ce qu'il y a d'autres formes de plaisir ici auxquelles vous êtes sensible ?
Ça serait très injuste de ne pas mentionner le plaisir du picodon.
Ouais. Le fromage.
Le fromage local.
Fromage de chèvre.
Absolument. Un petit fromage de chèvre local qui est tellement présent dans la région qu'un jour, je me souviens, j'ai commandé un plateau trois fromages. Et il m'est arrivé trois picodons à trois niveaux de maturation, oui. Certes différents, mais...
Le frais,
le demi-sec, le très sec. Ouais. Et alors, je dis, mais c'est censé être un plateau trois fromages, dis-je au garçon qui me servait. Et il a regardé le plateau, il m'a fait 1, 2, 3. Il avait raison, je pouvais absolument rien opposer à cet argument. Il y avait bien trois fromages. Donc c'est vraiment le fromage de la région. Il faut lui reconnaître une qualité énorme, c'est qu'il est bon. Et que effectivement, ces trois niveaux de maturité donnent trois goûts assez différents les uns des autres, et que la région en vit, c'est-à-dire que c'est quand même une activité pas négligeable du tout.
Nous quittons la montagne drômoise, ses champs de lavande, et nous allons donc à
Dieulefi. Alors j'y vais très régulièrement, évidemment, pour faire des choses très banales comme mes courses, tout simplement, et aussi pour aller dans la librairie de Dieulefi qui s'appelle Sauégambade. Et elle possède aussi, ce qui n'est pas négligeable en été, un salon de thé avec une petite terrasse à l'arrière, comme on va le voir.
Et cet esprit, cette mentalité de solidarité, d'entraide, de résistance qui a fait de Dieulefi justement une ville juste, est-ce qu'il se perpétue ? Est-ce qu'il est toujours là aujourd'hui, vivant ici ?
Oui, je pense. Je pense qu'il y a une tradition d'accueil. Ici, il y a une moyenne de 200 à 300 migrants qui sont hébergés dans le canton. Et il y a beaucoup de structures d'entraide qui sont des structures laïques, protestantes ou catholiques qui rivalisent en fait pour accueillir, ce qui est quand même assez rare. On va rentrer dans la librairie.
Bonjour.
Anne-Laure Reboul.
Bonjour.
C'est ma librairie, je crois qu'il faut bien le reconnaître comme ça. Et en dehors de qualité de son stock, elle a aussi une atmosphère qui est, à la fois studieuse et joyeuse. Quoi. Les enfants sont
familiales, oui, c'est quelqu'un autour de nous voilà. Là, aujourd'hui. Et voici le salon de thé. Donc, vous avez laissé votre trace, Hervé Le Tellier, dans cette librairie. Qu'est-ce que c'est que cette table ?
Alors, on m'a fait une surprise. En fait, quand je suis venu signer pour le Goncourt, on m'avait installé une table. Et sur cette table, il y avait une plaque en métal où il était écrit...
Pouvez-nous la lire ? Petite table rouge, comme une table de bistrot.
Mais c'est une table de bistrot sur laquelle il est gravé, ici, Hervé Le Tellier, lauréat du Goncourt 2020. L'amusant, c'est la surabondance de mots anglais. A checké ses mails perso, chatté sur Messenger, fait du shopping en ligne et bu plein de café. Voilà. Et il est écrit en dessous en plus petit, ces moments resteront gravés dans notre mémoire pour toujours. La maison est ironique. Mais sympathique.
Hervé Le Tellier, on quitte cet endroit où on est pourtant si bien. Et nous allons vers la dernière étape de votre chemin d'écrivain.
Exactement. Au revoir Anne-Laure.
Au revoir Hervé.
Merci beaucoup. Au revoir.
À bientôt.
Félicitations pour votre prix concours.
Merci.
Je vous en prie.
Le héros de Dieulfi.
Ah ouais.
C'est étonnant. C'est-à-dire que c'est vrai que
c'est émouvant, non?
C'est super touchant parce que c'est le lecteur que je croise rarement et que j'ai peu eu l'occasion de croiser avec les conditions du confinement. Et c'est vrai que moi qui suis un dromois d'adoption, il y a un côté touchant à voir que les gens se sentent aussi concernés. Je suis passé du statut d'anonyme à célébrité, c'est assez bizarre. Mais ça n'a pas que des défauts.
Et puis bon, à 64 ans, on assume ça, j'imagine, avec une certaine lucidité, du sang-froid.
Sérénité. Sérénité, voilà.
Eh bien, c'est ici que se termine ce chemin d'écrivain Hervé Le Tellier, en pays dromois, près de la fontaine, au pied du beffroi de Dieulfi. Comme le veut l'usage dans cette émission, je vais vous demander de nous proposer une musique ou une chanson qui est parfaitement adaptée à ce chemin que nous venons de faire ensemble. Qu'est-ce que vous choisissez ?
Alors, je choisis une chanson de Brassens qui s'appelle « La visite » et qui fait référence de manière extrêmement claire en fait à... au voyage des migrants, au voyage des immigrés.
Et parce que cette année 2021 est une année de commémoration Brassens.
C'est à la fois l'année Brassens, c'est aussi une année dans laquelle la question des migrants n'a vraiment pas été réglée. Et enfin, c'est une interprétation qui, moi, me touche.
Merci Hervé Le Tellier de nous avoir guidés dans ce pays dromois.
Merci à vous.
On n'était pas des barbes bleues, ni des pelés, ni des galeux, porteurs de parasites. On n'était pas des spadassins, on venait du pays voisin. On venait en visite.
C'était le chemin d'écrivain d'Hervé Le Tellier dans la Drôme provençale. L'Anomalie, son prix Goncourt, est édité par Gallimard. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast et sur l'application RTL. À dimanche prochain, je vous souhaite un très bel après-midi.
On poussait pas des cris d'Indiens, on avançait avec maintien et d'un pas qui hésite. On braquait pas des revolvers, on arrivait les bras ouverts, on venait en visite. Mais ils sont rentrés dans leur trou, mais ils ont poussé les verrous dans un accord tacite. Ils ont fermé les contrevents, caché les femmes, les enfants, refusé la visite. On venait pas leur imposer notre manière de penser, pas leur prendre leur site. On venait leur dire en passant un petit bonjour.
Et voilà la visite de Georges Brassens pour finir ce premier chemin d'écrivain de l'été. On vous retrouve Bernard dimanche prochain. Et on retrouve, vous l'avez dit d'ailleurs, toutes ces chroniques sur le site et sur l'application RTL. Il est 13h sur RTL. Principaux titres du jour, et d'abord ce document RTL au lendemain de la mort de ce jeune homme de 18 ans, Théo, vendeur de téléphone portable, attaqué au couteau dans sa boutique en Seine-et-Marne par un client de 62 ans qui était venu initialement pour se plaindre d'une facture. Valentin Boisset a pu recueillir le témoignage de l'une des quatre personnes qui a maîtrisé l'agresseur hier. Il s'appelle Mohamed, il a 37 ans.
Pour moi, c'est une bagarre, je cours pour aller voir ce qui se passe. C'est là que je vois tout le monde courir, s'écarter d'un monsieur qui a un couteau à la main. Quand je vois ça, le monsieur, je lui dis « Ouais, chef, calme-toi, calme-toi, lâche-la. » Ça va très vite. Hein. Après, l'instinct, je lui mets un coupé dans le dos. Le monsieur tombe, nous menace avec son couteau. Il se relève. Des gens prennent des chaises, des restaurants qui est à proximité. Ils tapent dessus. Au final, on réussit à le maîtriser. T'as pas le temps de réfléchir, c'est sur l'instant T. T'as pas le temps. Et moi, je sais pas ce qui s'était passé juste avant. Je sais pas la gravité des faits, en fait. Je sais que s'était passé un truc, mais pas tout ça, en fait. C'est après que j'ai appris tout ce qui s'était passé. C'est le petit qui est décédé qui me chagrine le plus. C'est ça qui reste dans ma tête.
Le témoignage de Mohamed qui a donc permis d'interpeller le forcené hier à Clessouilly. Il répondait à Valentin Boisset. À la une également, un homme dans l'espace. Cet après-midi à 15h, le milliardaire Richard Branson s'envole depuis le Nouveau-Mexique à bord de son vaisseau Unity. Il va être tracté à 15 000 mètres d'abord par un avion porteur. Ensuite, le vaisseau se mettra en route pour monter à 90 km d'altitude. Là où l'on commence à voir se dessiner la courbure de la Terre. Il restera un peu en apesanteur avant la chute libre et le vaisseau qui déploiera ses ailes pour atterrir à nouveau au Nouveau-Mexique. Richard Branson qui sera donc de retour sur Terre pour assister à la finale de son équipe nationale. Italie-Angleterre, c'est la finale de l'Euro évidemment ce soir à 21h dans le stade de Wembley à Londres. 60 000 spectateurs attendus. Soirée spéciale sur RTL de 20h à minuit avec Eric Silvestro, avec toute l'équipe, avec Philippe Sanfourche qui sera évidemment au stade. Un match qui est également diffusé à la télévision sur M6. Le Tour de France, les coureurs attaquent les Pyrénées, l'étape est partie, 15e étape entre Céret et Andorre-la-Vieille, Pogacar est en jaune et c'est le français Guillaume Martin de la Cofidis qui est toujours deuxième. Le sport, c'est aussi la finale de Wimbledon, cet après-midi Novak Djokovic face à l'italien Matteo Berrettini et un 20e titre du Grand Chelem peut-être en ligne de mire pour le Serbe. La météo, Céline Da Costa, on vous retrouve.
Oui.
Ça s'améliore un peu, vous nous le disiez.
Oui, avec du soleil sur la moitié nord. Il fera un petit peu plus beau qu'hier et surtout plus sec. Le ciel est encore bien nuageux, mais patience. Hein, on aura le retour de quelques rayons de soleil dans le courant de l'après-midi. Ça restera quand même plus nuageux sur les bords de Manche et plus vieux encore sur la Bretagne et la pointe du Cotentin. Pour la moitié sud, en revanche, c'est grand soleil toute la journée. On aura juste un voile nuageux qui va s'installer sur le sud de l'Aquitaine, la région Midi-Pyrénées, en toute fin de journée avec des orages possibles dans la soirée. Côté température, c'était déjà très doux ce matin. On gagne quelques degrés cet après-midi. 18 à 26 pour la moitié nord, 27 à 33 pour la moitié sud.
Merci beaucoup Céline Da Costa. C'est la fin de ce RTL Midi. Dans un instant, les voix du crime. On va retrouver Diane Douzillet qui va nous parler ce midi de l'affaire Jean-Claude Roman.